Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous mensuel Instant Japon en compagnie de notre ami Dominique Buisson, spécialiste de ce pays, entre autres auteur et photographe. Dominique, nous allons reprendre le sujet du mois dernier qui n'est autre que le peintre Fujita. Une partie de ses œuvres est visible en ce moment et jusqu'au 16 mars à la Maison du Japon, l'occasion donc pour nous de revenir sur son parcours atypique. Alors la dernière fois nous l'avions laissé au seuil de la Seconde Guerre mondiale, de retour au Japon. C'est la période la moins connue de Fujita si j'ai bien compris et donc c'est celle qu'on voit en ce moment à la Maison du Japon.
Alors Fujita est de retour au Japon.
Contraint et forcé.
Comme le dit le correspondant de l'agence France-Presse de l'époque, Robert Guillain, qui était donc en poste à Tokyo, l'excellent Fujita, qui doit se faire pardonner les longues années où il a vécu loin du Japon et trop aimé les libertés parisiennes, se met au pas. Alors, Robert Guillain, qui était un personnage très attachant, a passé sa guerre en tant que prisonnier de guerre. Mais comme c'était un journaliste et que c'était pas un militaire, on l'a obligé à résider dans une maison de geisha. Donc il a passé toute la guerre dans une maison de geisha. C'est en passant, il a gardé très bons souvenirs.
J'imagine.
À Tokyo, Fujita est nommé peintre officiel de l'armée de la Grande Guerre d'Asie. La même année, il est envoyé en Mongolie pour faire des recherches sur les combats de Nomonhan qui avaient eu lieu en juin 1939. Où les Japonais avaient été battus par les Russes, qui venaient de rompre l'accord de non-agression. Donc finalement, à quelques temps près, Fujita n'aurait peut-être pas été obligé de partir. Et là, il célèbre le courage des vaincus. Dans le même sens, et pour magnifier l'héroïsme nippon, il va se documenter pour peindre la destruction des avions chinois à Wangchang en mars 1939. Cette œuvre est encore pleine de la clarté française, mais la patte commence à se faire plus épaisse. Cette bataille qu'il n'a pas vue, il la peint comme une affiche de cinéma. Hein, parce qu'il ne va pas directement sur les guerres, il reconstitue après coup, la plupart du temps. Curieusement, en 1940, il se peint, âgé de 7 ans, l'âge de raison, vêtu d'une veste autrichienne, d'un pantalon et de brodequins en cuir. On ne sait pas pourquoi, mais l'œuvre est triste, comme s'il pressentait qu'à partir de cette époque, il allait renoncer à sa palette si lumineuse pour celle plus sombre et terreuse des peintures de guerre. Voulait-il garder une image occidentale de son enfance? On ne sait pas. 1941, son père meurt à l'âge de 88 ans. Fujita dit « J'ai eu la chance de revoir mon père pour son dernier anniversaire, quelques jours avant sa mort. » Mais Fujita était un Japonais. Il est éduqué dans les principes confucéens. C'est à la mort de son père qu'un homme se révèle. Si durant les 3 ans de deuil, il perpétue les principes de son père, il aura fait preuve de piété filiale. Cette année 41 est essentiellement marquée par les expositions, les fresques militaires et les peintures parisiennes, les sujets parisiens. Il est même envoyé en Indochine française comme attaché culturel, parce qu'il parle le français évidemment. En 1942, Fujita est sur le front du Pacifique Sud comme officier, chef du groupe de peintres officiels de guerre. S'il participe à la propagande, il reste néanmoins sur la réserve. Il ne glorifie pas les troupes japonaises. Au contraire, il montre qu'on a recruté des adolescents parmi les soldats. Soldats plus âgés qui, par ailleurs, sont montrés dans une totale bestialité. Et il dira « Dans ma peinture, ne figure aucun général ». Les soldats ont été tellement malheureux que je les ai peints, uniquement les soldats. Il fait en cachette des petits tableaux de nus ou de nature morte, en même temps que les compositions de l'armée, et il dit à ses amis, parce qu'il n'a pas le droit de le faire, que c'est pour se détendre. Fin de la guerre, 1945, la maison de Fujita est détruite par un bombardement. Avec sa femme, Kimiyo, il va s'installer à la campagne. Plusieurs mois plus tard, une jeep américaine entre dans le village. C'est la panique. Un soldat américain en descend. Fujita rassure les villageois. Il le connaît. Il a été son élève à New York. Fujita regagne Tokyo. Avril 46. La nouvelle Association des artistes progressifs et son chef Uchida Iwao se rendent chez Fujita pour lui demander d'assumer toute la responsabilité criminelle de la propagande des militaires nationalistes. Alors que pendant la guerre, on avait trouvé que ces peintures n'exaltaient pas suffisamment l'esprit victorieux et la suprématie de l'armée nippone. Maintenant, on le tient pour responsable, en tant que chef du groupe des peintres de guerre, de tous les crimes des militaires. Grâce à Frank Sherman, un condisciple de Fujita à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris, Fujita est innocenté des crimes de guerre en 1947. Il retrouve même grâce auprès de la maison impériale. Il va donc pouvoir à nouveau exposer. Et il expose en particulier « Mon rêve », une peinture très étrange où tous les personnages sont des animaux parce qu'il travaille sur une série autour des fables de La Fontaine. Et puis, une autre œuvre encore plus surprenante peut-être, « Les Trois Grâces ». Ça fait un an qu'il travaille dessus. Elle est presque symboliste comme aspect. C'est une peinture très claire, très lumineuse, un peu comme les peintures académiques du début de l'art moderne japonais. C'est assez curieux. 49, il quitte enfin le Japon grâce à l'intervention de MacArthur. Il va aux États-Unis où son épouse le rejoint 2 mois plus tard. Il est nommé professeur aux Beaux-Arts de Brooklyn, achève sa série sur La Fontaine et fait de nombreux portraits mondains. Comme toujours, il renoue avec ses anciens thèmes, dont un nu à la toile de Jouy, parce qu'il adore la toile de Jouy, parce que c'est un dessin très fin, il adore ça. Il en a fait beaucoup dans les années 20-30. Il peint l'une de ses peintures les plus célèbres, qui s'appelle Café, et commence à imaginer des petites filles coiffées d'un minuscule fichu et pour lesquelles il ne requiert aucun modèle.
C'est un retour définitif.
Alors en 50, il revient finalement à Paris. Aux journalistes qui l'attendent sur le quai de la gare Saint-Lazare, il répond à votre question.
Ah.
Je reviens pour rester.
Hein, je bien. Suis.
Oui, vous êtes
c'est bien.
Oui.
Au moins, c'est clair.
Je veux mourir en France.
Et oui, voilà.
Et être enterré au cimetière Montparnasse auprès de Modigliani. D'ailleurs, il ne peut pas vivre que dans un rayon de, on va dire, 100 mètres autour du dôme. Il a 65 ans.
Alors, le Paris qu'il retrouve, bien sûr, c'est le Paris de l'après-guerre.
Oui.
Quel est son ressenti?
Alors, pendant la guerre, le quartier a été négligé.
Oui.
Au profit de Saint-Germain, qui va suivre bientôt une autre voie aussi. Mais là, quand il revient dans les années 50, Montparnasse retrouve un peu de lustre. Parce qu'il y a de nouveaux artistes qui viennent s'installer. Pas mal de sculpteurs, d'ailleurs. Mm-hmm. On peut citer Tinguely, Niki de Saint-Phalle, César, Armand, le peintre Carzou. Tous se retrouvent à la Coupole, où ils retrouvent André Salmon, Braque, Derain, Vlaminck et donc Fujita. Au Dôme, on va trouver plutôt Segonzac, Villon, Lot. Hein, enfin, les artistes se partagent par affinité bistrotique. Voilà. Ce qui a changé, c'est Fujita aussi.
Oui.
Parce que lui, il demeure fidèle à la figuration. Alors qu'en France, l'abstraction est en train d'envahir les galeries. Et puis des concepts complètement nouveaux, parce que j'ai cité quand même César, Armand, hein, ce sont quand même vraiment là, on entre dans l'art contemporain
dans l'art
avec
contemporain,
des gens comme ça.
Bien sûr.
Après un séjour à l'hôtel Beaujolais, il trouve un atelier 23 rue Campagne Première à Montparnasse et s'y installe. Et dès mars, il expose à la galerie Paul Petrides, qui était un grand marchand de l'époque, qui va lui consacrer d'ailleurs une exposition à peu près tous les 2 ans. Jusqu'en 1964. Le critique André Varnaud annonce dans la presse « Fujita apparaît à la galerie Petrides avec des jeux renouvelés ». Ce que semble confirmer Fujita, lui-même d'ailleurs, qui dit « En réaction au temps de violence, j'ai imaginé des sujets très doux, très enfantins même. Effectivement, ces toiles se couvrent d'enfants aux grands yeux, au front rêveur, au sourire mélancolique. » Et Robert Ray précise, toutes ces petites filles fées offrent un front uni comme une soie. Elles sont graves. Leurs vastes prunelles ont une fixité vide, puis au fond duquel demeure peut-être encore on ne sait quel indicible savoir. qui nous fait baisser les yeux devant le regard des nouveau-nés. Franchement, les petites filles en question, c'est pas ma tasse de thé, parce que moi, je les trouve très étranges.
Très étranges, oui.
À cette époque, Fujita va donc développer essentiellement l'image de la fillette, à l'image des poupées anciennes qu'il collectionne dans son atelier. Il les peint légèrement vues par-dessous, comme s'il était assis sur un tatami. Hein, il vient de passer plusieurs années au Japon, donc il retrouve la posture visuelle qu'on trouve dans le cinéma de Ozu, par exemple. Hein, regarde au niveau du chat, quoi, aussi. On peut appeler ça comme ça. Certaines de ces fillettes n'ont pas de cou, même. Comme les poupées de bois Kokeshi, c'est où il y a juste une boule sur un corps cylindrique. Donc, des poupées, des petites filles qui ont une grosse tête, comme ça, qui n'ont pas vraiment d'épaules non plus. C'est assez bizarre. Elles ne sont pas réellement vivantes.
Un peu dérangeantes, alors.
Moi, personnellement, elles me dérangent, oui. D'autant que quand on connaît son œuvre précédente, où là, il y a une humanité, on voit bien, il y a quelque chose qui se passe. Là, on entre dans quelque chose qui est presque une abstraction de sentiment. Moi, je trouve. Mais enfin, bon, ça va marcher. Alors, il va faire toute une série très importante d'enfants à la baguette de pain, au pot au lait, sur plusieurs années, pratiquement de 1952 à 1956. Après, il va faire des séries aussi d'enfants aux chats, d'enfants aux oiseaux. Mais même ces chats, ils ont le regard dans le vide.
Bon, alors ça, c'est une vision peut-être un petit peu caricaturale des Français. Il va, Dieu merci pour vous, pas peindre uniquement des enfants quand même.
Non, mais c'est pas que c'est séduise pas non plus
trop. Ah bon?
Non, mais cette vision des enfants à la baguette de pain, c'est peut-être une nostalgie de son désir de France quand il était étudiant, on ne sait pas trop. Mais heureusement, effectivement, il peint d'autres sujets, des femmes en particulier, et toujours des femmes. Mais ces jeunes femmes prennent le plus souvent des allures de vierges pudiques, les cheveux coiffés par une mousseline légère et claire. Elles ne sont pas nues, mais on pourrait dire qu'elles voilent leur pudeur symboliquement, laissant tout apparaître de leur anatomie sous les savants plissés des décolletés et des jupons. En même temps, Fujita attaque une longue série de vierges à l'enfant. Donc là, on voit que radicalement, il a basculé vers une autre problématique. En 1952, il offre au Musée national d'art moderne, Pompidou maintenant, quatre œuvres importantes, Mon intérieur 1921, Mon intérieur 1922, Café 1949 et Notre-Dame qui est aux fleurs 1950. En juin, s'ouvre sa deuxième exposition à la galerie Petrides. À la fin du mois de janvier 51, un de ses amis l'invite chez lui, en Algérie, à la Bouzaréa, tandis que Romanet, un autre grand galeriste, l'expose dans sa galerie de la rue d'Isly à Alger, puis à Oran et Casablanca. En novembre, c'est au Cercle des Beaux-Arts à Madrid. L'aisance financière du couple est de nouveau assurée. Fujita participe au premier salon des peintres témoins de leur temps. Il y exposera pendant 8 ans.
Alors là encore, l'histoire personnelle d'ailleurs de Fujita bascule, puisqu'il va devenir non seulement français, mais aussi chrétien.
Et oui, Fujita Tsuguharu va devenir Léonard Fujita. Dans un premier temps, il va demander la naturalisation française, qu'il obtiendra avec son épouse, le 25 février 1955. Dans un second temps, il va changer de religion. Il faut dire qu'en 1959, l'éditeur Joseph Fauré lui commande des illustrations pour l'Apocalypse de Saint-Jean, un énorme projet qui va réunir aussi Salvatore Dalí, Bernard Buffet, Ossip Zadkine, Jean Cocteau, Jean Rostand, Ernst Jünger. Ce travail, probablement, va le conforter dans sa nouvelle conscience religieuse. Il est probable que ça a eu une très, très grande importance. Mais c'est en visitant la basilique Saint-Rémy de Reims qu'il connaît une illumination mystique et décide de se convertir au catholicisme. L'inoubliable impression qu'il avait reçue de la scène de Vinci lui fait choisir son prénom chrétien, Léonard. Il l'a pris en français, parce que sinon il s'appellerait Leonardo Fujita.
Oui, ça ferait presque italien, Leonardo Fujita, on pourrait y croire.
Kimiyo, sa femme, s'appellera désormais Marie-Ange Claire. Alors là, je tirais ça d'un article. Baptême, confirmation, eucharistie, pénitence, mariage. 5 sacrements en un temps record. Fujita fait don à la cathédrale d'une Vierge à l'Enfant. C'est le premier tableau qu'il signe de son prénom chrétien et qu'il date du 14 octobre 1959. Désormais, ses œuvres seront toujours signées Léonard Fujita ou L. Fujita et seront dans leur grande majorité consacrées à des scènes religieuses. En 1960, il achète une maison carrément en ruine, mais dont il est tombé amoureux et qui se trouve dans la vallée de Chevreuse, à Villiers-le-Bacle. Il va complètement la rénover, la transformer, pour qu'elle devienne sa résidence principale. Son atelier se trouve dans les combles. Il va y passer une retraite heureuse, artistiquement assez mystique. En 1963, il peint une œuvre singulière, Adoration. Fujita et sa femme Kimiyo y sont représentés en donateurs. Le peintre a été influencé par la tradition des tableaux de dévotion avec commanditaires, si nombreux en Europe du Nord et en Italie. Et puis en Bourgogne aussi, beaucoup. Voilà. En arrière-plan, à droite, est représentée sa maison de Villiers-le-Bacle avec le paysage de la vallée de Chevreuse où il vivait. À gauche, toujours en arrière-plan, est dessinée la campagne italienne. Ça, c'est sûrement un écho à la Joconde, puisque derrière la Joconde, on voit la plaine du Pont. Oui. Le couple porte des habits qui n'appartiennent à aucun ordre religieux. Fujita y arbore la médaille offerte par le pape Jean XXIII, lors d'une audience privée en 1960. Au premier plan, il y a des oiseaux, qui évoquent évidemment Saint François d'Assise, parlant aux oiseaux de Giotto. Il y a un lièvre. On sait qu'il aimait beaucoup le lièvre gravé par Dürer, mais aussi la Vierge au lapin du Titien. Donc oui, on sent bien qu'il a voulu mettre des petits trucs à lui là-dedans.
Alors, un donateur, ça donne, mais ça donne quoi?
Ça donne quoi? Ben, rien de moins qu'une chapelle. En 1964, son parrain de baptême, qui s'appelle René Laloux, et Fujita conviennent de concrétiser, par la construction d'une chapelle, leur sentiment de reconnaissance pour la révélation mystique de Fujita, que Fujita avait reçue donc devant le tableau de Saint-Rémy. Je ne me trompe pas cette fois. Et Fujita va consacrer toute son énergie à sa dernière grande œuvre, la chapelle Notre-Dame de la Paix, à Reims. Pourquoi Reims? Ben, René Laloux est le président de la maison de champagne Moum. Et c'est donc Moum qui va financer la construction. Cette chapelle de Fujita, donc Notre-Dame de la Paix, est construite à partir de 1965 dans un style néo-roman, sous la direction de l'architecte Maurice Clausier, d'après des plans conçus par Fujita lui-même. D'ailleurs, dans sa maison de Villiers-le-Bac, il y a plein de petites maquettes de cette future chapelle. C'est une œuvre d'art totale. Il en a conçu l'architecture, les vitraux, les ferronneries, les sculptures, les 100 mètres carrés de peinture à l'intérieur. Il a 80 ans à l'époque. Et il va s'atteler à la décoration intérieure en choisissant la technique la plus difficile, qui est la fresque. En effet, la peinture est appliquée directement sur de l'enduit frais, donc ça n'autorise aucune correction possible. On a posé le trait, il est absorbé et c'est fini. Il faut donc avoir la main sûre et rapide. Kimiyo, sa femme, est représentée à genoux, adorant la Vierge. Fujita et Laloux également, dans une foule de personnages. J'ai oublié de vous dire que les vitraux dessinés par Fujita sont réalisés par le maître verrier rémois Charles Marc. On y trouve Sainte-Cécile, on y trouve un certain nombre de personnages religieux et aussi un chat. Le 1er octobre, l'édifice est consacré et le 18 octobre, Fujita et René Laloux en remettent les clés à la ville de Reims. Le 8 décembre 1966, Fujita entre en clinique pour y subir des examens de la vessie, mais en fait, il est atteint d'un cancer qu'on lui cache dans un premier temps. Son état de santé devenant préoccupant, il est d'abord suivi à Paris, puis, sur les conseils de son ami Georges Prades, soigné par l'éminent professeur Rossier à l'hôpital cantonal de Zurich. Il subit là plusieurs interventions qui lui permettront de revenir plusieurs fois à Villiers-de-Bâcle, mais la maladie va l'emporter inexorablement en fin d'année. Le 29 janvier 1968, au terme de souffrances immenses, il s'éteint à Zurich, laissant à Paris et dans le monde entier un imposant ensemble d'œuvres. Il repose à Reims, dans sa chapelle, aux côtés de sa dernière épouse, qui va le rejoindre évidemment plus tard. Et selon ses dernières volontés, son cercueil s'arrête à Montparnasse, en l'église Notre-Dame-des-Champs, sur la route de Reims et de sa chapelle. La ville de Reims, d'ailleurs, recevra, selon son souhait, un legs de 663 œuvres. Toiles, vitraux, céramiques, dessins préparatoires, maquettes, etc. Cela fera d'elle le plus grand possesseur européen d'œuvres de Fujita. Au nom de l'empereur, le gouvernement japonais lui décerne le premier degré de l'ordre du Trésor sacré. Et de septembre à novembre, une grande exposition rétrospective a lieu à Tokyo et à Kyoto.
Quel destin !
Ouais.
Et alors, pour terminer cette émission, moi, je suis un petit peu curieuse, mais vous nous avez expliqué avoir un lien avec Fujita. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à son œuvre ? Et pourquoi ?
Ah, ça, c'est une longue histoire.
je suis bien curieuse. On pourra en refaire
non,
une.
Tout simplement parce que, après quelques ouvrages sur le Japon, un éditeur m'a contacté et m'a demandé si, puisque c'était Fujita est mort donc en 68, mm-hmm. Que moi je commençais à fermer un peu mes preuves au niveau édition, donc il m'a demandé si je ne voulais pas faire un livre sur l'œuvre de Fujita, pensant que mon lien avec le Japon permettrait de convaincre plus facilement la veuve de Fujita d'adhérer au projet. Donc on a commencé par travailler plusieurs années avec mon ex-épouse pour recenser les œuvres, aller voir des collectionneurs, mm-hmm. trouver de la documentation, de manière à préparer un projet et pouvoir le présenter à Madame Fujita, ce qu'on a fait. Et en réponse, on a reçu du papier bleu d'huissier, nous intimement... Nous obligeons à prendre un avocat, d'ailleurs, parce que nous étions condamnés pour harcèlement, l'éditeur, mon ex-femme et moi, pour une somme mais colossale. Alors, vous imaginez...
Comment est-ce qu'on explique cette...
Elle ne voulait pas.
Elle ne voulait pas.
C'est ce qui a fait qu'on a gagné au bout du compte. Oui. C'est que, justement, c'était un abus notoire. Mmh. Bon, Fujita, souvent écrit... qu'elle avait des problèmes psychiatriques.
D'accord.
Elle avait très souvent, elle avait subi toute une, même au Japon, bon, des séries d'électrochocs. Enfin, c'est comme ça un peu qu'on soignait les problèmes à l'époque. Enfin bon, manifestement, elle avait. Alors, on ne sait pas si elle avait une revanche à prendre par rapport à Fujita, parce qu'il était tellement lumineux, exceptionnel, qu'elle était peut-être un peu trop dans l'ombre. Enfin, on ne sait pas trop les raisons. On n'a jamais vraiment su. Enfin, donc du coup. Il y a eu procès. Heureusement, on a un ami avocat qui s'est mis de notre côté gratuitement, parce que c'était effrayant. On avait déjà trois enfants, on était deux jeunes chercheurs. Enfin, bon, c'était épouvantable, quoi, comme truc. Et le ministère de la Culture s'est mis avec nous. On a eu une dizaine d'avocats, dont beaucoup de très, très grands. Mm-hmm. Et qui ont plaidé conjointement avec nous. Et au bout de trois ans, quand même, ça a duré trois ans de procès. On a eu gain de cause. Le problème, c'est que l'ouvrage qu'on avait fait, qui comportait à peu près 2000 œuvres, et dont le marché principal était le Japon, parce qu'en France, à part à l'époque, une dizaine de marchands sur la place de Paris qui pouvaient être intéressés par un catalogue raisonné, il n'y avait pas grand monde. Donc le Japon, qui a horreur des problèmes, n'a jamais acheté le... Ça a tout stoppé. Donc, l'éditeur a été proche de la faillite. Nous, on est restés sur tous nos frais de tout ça pendant des années. Voilà. Voilà le lien que j'ai avec Fujita.
Ça ne vous a pas dégoûté de l'œuvre de Fujita ? Quel est votre regard sur son œuvre ?
Alors, c'est très partagé parce que, comme ça s'est conclu également par un divorce, etc.
Ça fait beaucoup pour autant cet artiste.
Ça fait beaucoup. Donc, moi, j'ai abandonné le milieu de l'art.
Oui.
comme ça. Ma femme, elle, a continué. Elle est aujourd'hui l'experte de Fujita. D'accord. De Fujita. Elle a continué d'ailleurs le catalogue raisonné. Mais voilà, c'est... Et moi, je suis retourné au Japon lui-même.
Vous avez fait l'autre, le sens inverse de celui de Fujita. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le regard peut-être des Japonais sur l'œuvre de Fujita ?
Alors, ils sont très intéressés, autant par le personnage, un peu comme nous d'ailleurs, ouais. autant par le personnage que par son œuvre. Donc l'œuvre, elle a été largement répertoriée maintenant, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille dessus. Donc voilà. Aujourd'hui, ils travaillent plus, par exemple, j'ai rencontré très récemment des Japonais qui travaillaient sur la correspondance entre la première femme, celle qu'il a laissée oui. quand il est venu en...
Oui.
Voilà. Et Fujita. Donc, il y a toute une association, on va dire, de Japonais qui travaillent pour trouver, justement, des documents sur cette époque.
Sur cette époque.
Sur des courriers, sur des dessins qui auraient pu être faits, enfin, des choses comme ça. Donc, les Japonais, pour eux, c'est quand même... c'est un monument national, quelque part aussi, quoi. Justement, parce que c'est une sorte d'interface entre la France et le Japon.
Et aujourd'hui, cet art dont vous nous avez parlé, donc l'occidentalisme, est-ce qu'il a des héritiers aujourd'hui au Japon ?
Ah, bien sûr. Après Fujita, il y a d'autres peintres qui ont suivi la voie occidentale. Mm-hmm. Mais cette voie occidentale était beaucoup plus ouverte. Elle était beaucoup plus basée sur des recherches personnelles. C'était plus des ismes, quoique. Mais par exemple, Okamoto Taro, qui est très connu parce qu'il a fait une sculpture très connue pour les Jeux Olympiques à Osaka, années 60. Lui, s'est inspiré du surréalisme, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup d'écoles ou de styles français qui ont inspiré des Japonais. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une seconde vague qui est un nouveau japonisme, on va dire, puisque des artistes comme Murakami Takashi ou des grands maîtres du manga, des mangas, oui. influencent C'est tout vrai. Notre art graphique. Qu'il soit publicitaire, bande dessinée, illustration, mais aussi peinture. Et quand on va dans les galeries, on voit quand même très, très, très nettement cette influence. Murakami Takashi, c'est celui qui avait exposé à Versailles, dans les jardins de Versailles.
Oui. Voilà. Bien, merci Dominique pour ce tour très complet donc, de l'œuvre et de la vie de Fujita. On aura le grand plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une autre émission Instant Japon. Et d'ici là, celles-ci sont bien sûr réécoutables sur le site internet de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr.